VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 19h30 en temps universel du mercredi 27 février 2019. Abdourahmane Dia et Raissa Girondin à la présentation, voici les titres.
Au Mali, 17 civils ont été tués par l'explosion d'un cadavre piégé dans le centre du pays.
Au Nigeria, Atiku Abubakar conteste la victoire du président sortant Muhammadu Buhari.
Le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un se disent optimistes au début de leur deuxième sommet à Hanoï.
Au Congrès américain, Michael Cohen, ex-avocat de Donald Trump, a eu des mots très durs contre son ancien patron.
En partie magazine, la star sénégalaise Baba Mal, récompensée aux Oscars pour avoir participé à la musique du film Black Panther.
Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal.
Dans le centre du Mali, au moins 16 civils ont été tués dans l'explosion d'un cadavre piégé dans la commune de Diankabo. C'est dans le cercle de Koro. Déjà le 14 février, deux soldats ont été tués dans le nord du Burkina voisin avec un procédé similaire. Au Mali, c'est peut-être la première fois qu'un corps humain piégé est utilisé dans une attaque. Idriss Fall a recueilli le témoignage de Husseini Dolo. C'est un habitant du cercle de Koro.
D'après les informations que nous avons, ce qui s'est passé à Gonoguru dans la commune de Diankabo, c'est tout simplement horrible. Puisque des hommes armés non identifiés ont assassiné un jeune du village qui était allé à la recherche des herbes. Donc quand l'âme est revenue au village sans le musée, alors les villageois se sont mobilisés à la recherche de son corps. Quand ils ont découvert le corps en brousse, donc tout de suite ils se sont attroupés autour du corps, donc essayant de prendre le corps pour aller enterrer convenablement comme il faut. C'est là qu'un engin explosif était caché sous le corps. Tout à coup, l'engin a explosé. Les gens sur place, 16 morts. Vraiment, depuis le début de notre crise de 2012 à nos jours, ce qui s'est passé avant-hier, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais appris. Ça, c'est une première. Je peux dire dans le Mali, à plus forte raison, en cinquième raison, dans le cercle de Koro. C'est une première. La situation est vraiment dégradée. C'est s'occuper en réalité, puisqu'on ne peut pas s'éloigner du village à plus de 5-10 km. C'est très, très dangereux.
C'était Husseini Dolo, un habitant du cercle de Koro, dans le centre du Mali.
Le chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu hier Soumaïla Cissé, son principal opposant, qui n'avait pas reconnu sa réélection. C'est une première depuis la présidentielle d'août dernier. J'ai été reçu par mon aîné, nous avons parlé du Mali, c'est évidemment un début de décrispation, a déclaré Monsieur Cissé. Nous allons en toute responsabilité faire le nécessaire pour trouver des solutions. Nous avons prévu de nous revoir bientôt, a-t-il ajouté, sans donner de date.
Au Nigeria, l'opposant Atiku Abubakar a dénoncé ce mercredi une parodie d'élection et a annoncé qu'il va saisir la justice pour contester les résultats de la présidentielle, donnant le sortant Muhammadu Buhari largement vainqueur. Le point avec Morgane Guériec.
Citant de nombreuses irrégularités, l'ancien vice-président Atiku Abubakar a annoncé qu'il rejetait les résultats de la parodie d'élection, annonçant qu'il allait les contester en justice. Le président Muhammadu Buhari a aussitôt balayé ces accusations, invoquant les observateurs locaux et étrangers qui estiment que l'élection a été libre et juste. Très tard cette nuit, la commission électorale indépendante a annoncé la victoire du président sortant avec 56% des suffrages et 41% à son rival. Bola Dele Adekoya, porte-parole du PDP, a annoncé que son parti est en train de rédiger sa plainte et réunir les preuves pour déposer un recours devant la Cour suprême. Pour rappel, quelques semaines avant le vote, le président Buhari avait suspendu Walter Onoghen, président de la Cour suprême, pour des accusations de corruption, pour le remplacer par Ibrahim Mohamed Tanko, originaire comme lui du nord du Nigeria.
Au Sénégal, les résultats officiels provisoires de la présidentielle du 24 février seront annoncés demain, jeudi, en fin de matinée, selon la Commission nationale de recensement des votes. L'annonce aura lieu à 11h, locale et GMT, au palais de justice de Dakar.
En République démocratique du Congo, l'armée a annoncé avoir tué mardi un combattant portant l'uniforme d'une armée étrangère dans une attaque qu'elle attribue aux rebelles ougandais des ADF à Beni, c'est dans l'est du pays. Ces rebelles ont été surpris alors qu'ils tentaient de couper le passage aux troupes loyalistes, c'est ce qu'a expliqué le major Mac Hazoumaï, l'un des porte-parole de l'armée dans le Nord Kivu.
Et toujours en République démocratique du Congo, 6 policiers ont été condamnés à des peines de 6 mois à la perpétuité. Ils sont reconnus coupables de la répression d'une manifestation d'étudiants à Lumumbashi, dans le sud-est du pays, où 3 étudiants et 1 policier ont trouvé la mort. Les étudiants réclamaient le rétablissement de l'eau et de l'électricité sur le campus de l'université de Lumumbashi, 4 jours après la prise de fonction du nouveau président Félix Tshisekedi.
Au Cameroun, l'avocate Michel Ndoki, membre du parti de l'opposition au mouvement pour la renaissance du Cameroun, a été arrêtée hier dans la localité d'Idenau, frontalière avec le Nigeria. Nous apprenons et confirmons à l'instant l'arrestation de maître Michel Ndoki dans des conditions encore obscures, a écrit dans un communiqué Olivier Bibou Nissak, porte-parole de Maurice Kamto, le président du MRC.
En Égypte, au moins 25 personnes ont été tuées, 50 autres blessées après qu'un accident de train a engendré un incendie dans la gare centrale du Caire. La cause de l'accident n'est pas encore connue, mais quelques heures plus tard, le ministre des Transports, Hicham Arafat, a démissionné du gouvernement.
Au Soudan.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aux États-Unis, alors, Michael Cohen, ancien avocat personnel du président Donald Trump, a témoigné devant le Congrès sur la collision présumée entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Devant la commission d'enquête de la Chambre des représentants, Michael Cohen a eu des mots très durs sur Donald Trump dans une audience publique télévisée.
I am ashamed. Because I know what Mr. Trump is.
J'ai honte parce que je sais qui est M. Trump. Il est un raciste, il est un escroc, il est un tricheur.
And he is a cheat.
L'ancien avocat personnel de Donald Trump a aussi expliqué comment il avait reçu instruction de son ex-patron de mentir sur un projet immobilier en Russie en pleine campagne présidentielle de 2016. Il a toutefois nuancé qu'il n'avait pas de preuve d'une éventuelle collusion entre l'équipe de campagne du candidat républicain et la Russie, mais qu'il en suspecte l'existence. Sa déclaration dresse un sombre portrait de M. Trump pour qui il a commencé à travailler en 2007. En voyage au Vietnam pour son 2e sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, Donald Trump a tweeté accusant Michael Cohen de mentir pour réduire sa peine de prison. M. Cohen a été condamné en décembre à 3 ans de prison pour fraude fiscale, parjure et infraction au code électoral. Radié du barreau, il sera incarcéré le 6 mai.
Donald Trump et Kim Jong-un ont affiché leur optimisme lors de leur second sommet à Hanoï au Vietnam, 8 mois après leur première rencontre à Singapour. Les détails avec Nathalie Barge.
Je pense que ce sera un succès, a dit Monsieur Trump avant ce 2e tête-à-tête sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. Pour sa part, Monsieur Kim s'est engagé à faire de son mieux pour aboutir à de grands résultats qui seront salués par tous. Donald Trump était accompagné du chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, et de son chef de cabinet, Mick Mulvaney. Kim Jong-un s'est présenté avec son ministre des Affaires étrangères, Ri Yong-ho, et son homme de confiance, Kim Jong-chol. À l'issue de leur brève rencontre, les deux dirigeants ont participé à un dîner dans un luxueux établissement de Hanoï. Ils se retrouvent demain dans la capitale vietnamienne.
Le représentant américain au commerce Robert Lighthizer a estimé ce mercredi qu'il restait encore beaucoup à faire avant de nouer un accord commercial avec la Chine. M. Lighthizer, qui mène depuis des semaines les tractations avec les négociateurs chinois, a néanmoins souligné lors d'une audition devant une commission de la Chambre des représentants que des progrès réels avaient été réalisés. Nous devions être capables d'avoir un accord qui contribuera à prendre un nouveau virage dans notre relation économique avec la Chine, a-t-il ajouté.
Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères a appelé à une rencontre entre les présidents Donald Trump et Nicolas Maduro pour tenter de mettre un terme à la crise. Dans un discours devant le Conseil des droits humains à Genève, George Ariza a affirmé que le président Maduro est prêt au dialogue, même avec les États-Unis.
La tension s'est aggravée ce mercredi entre l'Inde et le Pakistan. Les deux pays ont tous deux affirmé avoir abattu des avions du camp opposé. Les deux puissances nucléaires répétant toutefois vouloir éviter l'escalade. Le premier ministre pakistanais Imran Khan a renouvelé son offre de négociation avec l'Inde.
Et le négociateur européen Michel Barnier a déclaré qu'un éventuel report de la date du Brexit serait possible, mais il a précisé: les Britanniques doivent nous dire ce qu'ils feraient du temps supplémentaire. Voilà pour les informations.
Voilà, Raïssa Girondin, Abdourahman Dia, toujours en votre compagnie. Voilà donc pour les nouvelles.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par Nanita Lani.
L'Américain Kosmos Energy veut céder 10% de ses parts dans le projet gazier Greater Toti Ameyim, situé entre la Mauritanie et le Sénégal. Les pourparlers sont ouverts pour un processus devant permettre d'attirer une importante firme du secteur. Les partenaires produiront en moyenne 2,5 millions de tonnes par an de gaz naturel liquéfié et les recettes seront partagées à part égale entre le Sénégal et la Mauritanie. La Corporation industrielle du développement de la Zambie va investir 2,5 millions de dollars dans l'installation d'une usine de transformation de fruits d'ici août 2019 à Katete dans la province orientale. Ecofin soutient que cette usine devrait aider à réduire les pertes post-récolte très fréquentes dans la région au niveau des fruits comme la mangue et l'orange. Pour finir, la Banque centrale du Zimbabwe a vendu jusqu'à 20 millions de dollars à des banques pour leur permettre de négocier sur le nouveau marché interbancaire Forex, mais l'argent pourrait être épuisé vite en raison de la forte demande. Les exportateurs sont tenus de vendre leurs dollars 30 jours après leur acquisition. Mais certains analystes estiment que les exportateurs ne devraient vendre leurs dollars que quand ils en ont besoin si le Zimbabwe veut attirer les investissements étrangers.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Santingom fait son retour dans la tanière des Lions de la Teranga.
Oui, le sélectionneur Aliou Cissé a dévoilé sa liste de joueurs pour affronter Madagascar en dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 et le Mali en amical le mois prochain. On note le retour de Santingom qui a retrouvé du temps de jeu à Nancy. Première convocation pour le jeune gardien des moins de 20 ans, Diali Kobali, Crépin Diata et le milieu offensif de Nîmes, Sada Tube. Pour le reste, c'est un groupe de 25 joueurs avec des habitués de la sélection comme Sadio Mané, Diao Balde Keïta, Ismaël Assar, Idrissa Ganagay, entre autres.
Au Burundi, Beraino fait partie des 25 qui attendent le Gabon.
Oui, le sélectionneur des Hirondelles, Olivier Nyangeko, a convoqué 25 joueurs pour la réception du Gabon à la faveur de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, le 23 mars prochain. Parmi eux, la star de Stoke, Sidi Saïdo Beraino, buteur à l'aller 1-1, et l'attaquant Fiston Abdoul Razak de la JS Kabylie. La rencontre aura lieu à Bujumbura et pour se qualifier, le Burundi pourra se contenter d'un match nul face aux Panthères qui sont dans l'obligation de gagner s'ils veulent participer à Égypte 2019.
Kolo Touré suit Brendan à Leicester.
Oui, déjà adjoint de l'entraîneur Brendan Rodgers au Celtic, l'ancien international ivoirien a suivi l'Irlandais qui a été nommé coach de Leicester en remplacement de Claude Puel. Sur leur site officiel, les Foxes ont confirmé que le vainqueur de la CAN 2015 va faire partie du nouveau staff sous le titre de First Team Coach, entendez, premier adjoint au coach. Après avoir assisté à la victoire contre Brighton 2-1 en tribune hier, les deux hommes vont désormais se mettre au travail pour relancer les Foxes, actuellement 11e de Premier League. Rappelons que Kolo Touré est aussi sélectionneur adjoint de la Côte d'Ivoire.
Cyclisme, Edwin Avila enlève l'étape 4 du Tour du Rwanda.
Et oui, le Colombien Edwin Avila Vanegas s'est imposé en 2h37 devant l'Espagnol Pablo Muino Torres et l'Érythréen Sirak Tesfom. Vainqueur de l'événement l'année dernière, le Rwandais Samuel Mugisha termine cette étape à la 4e place. Au classement général, pas de grand changement. Merawi Kudus reste leader avec 17 secondes d'avance sur Rain Taramae. Matteo Badilati est à 45 secondes. Pour les classements individuels, Muino Fernando Torres récupère le maillot de la montagne. Juan de Ploy garde celui du sprint. Jacob Debessé est le meilleur jeune jusque-là. Didier Munyaneza est le meilleur rwandais. Demain, le peloton ira de Karangui à Mouzansé.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia et Raissa Girondin, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour.
Au Sénégal, les nombreuses confréries ne s'occupent pas seulement de religion. Elles sont également le socle de la stabilité du pays. Mourid, Tidiane, Khadre, Layen, elles sont au centre de la vie politique sénégalaise. Dans l'attente des résultats de la présidentielle de dimanche, Salwa Diafari s'est rendu à Touba, le chef-lieu des Mourides, et voici son reportage.
Avec ses artères étroites et ses ruelles ensablées, Touba n'a peut-être l'air de rien, mais son rayonnement est indéniable. Au bout de cette route, la grande mosquée de Touba. Chaque année, au mois de novembre, des millions de pèlerins convergent vers ce lieu saint pour le Grand Magal. La commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie Mouride. Pour le talibé Saline Saliou, le mouridisme est bien plus que ça.
La tariqa Mouride représente pour nous et pour moi personnellement tout. Parce que l'islam est égal au mouridisme. Et le mouridisme est égal à l'islam. Et que le mouridisme, c'est la voie qui nous mène au Seigneur de façon pacifique.
Un lien spirituel dont les politiques sont bien conscients. La confrérie Mouride, Tidjane, Layène ou autres sont donc sollicités avant chaque élection présidentielle. Souvenez-vous, au lendemain de son élection, Abdoulaye Wade était venu se prosterner en signe d'allégeance devant Sérigné Saliou Mbaké, ancien calife général de la confrérie. Alors, en cette période électorale, pour les candidats aux élections, Touba est un passage obligé. Dr Shirgey a publié un livre sur l'histoire de la ville de Touba.
Le marabout est plus respecté par le citoyen. Et ce citoyen-là se reconnaît en son marabout, en fait son modèle et en fait son guide. De ce point de vue-là, le citoyen est aussi un disciple. Et l'homme politique est également un disciple.
En cas de tension, on demande au calife de jouer au médiateur pour maintenir la paix, trouver des compromis. Pour le directeur de la bibliothèque de Touba, la confrérie ne fait que perpétuer la tradition musulmane.
Dans le contexte actuel, comme le veut le mouridisme, le calife lance tout le temps des appels au calme, des appels contre toute forme de violence.
Léopold Sédar Senghor, de confession chrétienne, a mené une nation majoritairement musulmane parce qu'il a entretenu des rapports cordiaux avec tous les guides religieux. Une tradition perpétuée aujourd'hui par ses successeurs, l'influence des confréries n'est pas près de disparaître au Sénégal. Salwa Jafari, VOA Afrique, Touba.
Cette semaine, dans Washington Forum, le point sur les élections présidentielles au Sénégal et au Nigeria. Au Sénégal, le camp du président sortant affirme avoir remporté la majorité absolue des votes dans la plupart des régions du pays, ce que conteste l'opposition. Et au Nigeria, la commission électorale a annoncé la victoire du président sortant, Muhammadu Buhari, avec 56% des suffrages contre 41% pour son rival, Atiku Abubakar. Comment se sont déroulées ces élections et quels en sont les enjeux ? Morgan Diayek en votre compagnie, on en discute ce jeudi à 19h temps universel.
Les Centrafricains retiennent encore leur souffle pour connaître les membres du nouveau gouvernement post-accord de Khartoum. Le nouveau Premier ministre Firmin Grébada a officiellement pris ses fonctions ce mercredi. Et sa nomination est diversement appréciée. À Bangui pour VOA Afrique, la correspondance de Freeman Sipila.
Firmin Grébada, 51 ans, était avant sa nomination directeur de cabinet du président Faustin Archange Touadéra. Son choix à la tête du gouvernement est sans surprise car son nom circulait déjà sur les réseaux sociaux avant même la démission de son prédécesseur Simplice Mathieu Sarandi. Chef de la délégation gouvernementale au pourparlers de Khartoum fin janvier et début février avec les groupes armés, le choix de Firmin Grébada est diversement apprécié par groupes rebelles, partis politiques et sociétés civiles. Tous veulent voir un Premier ministre rassembleur avec un gouvernement de réconciliation comme l'exige l'accord de Khartoum. Régis Benzi, conseiller politique de l'Union des forces républicaines fondamentales UFRF, un des mouvements armés.
Le choix du nouveau Premier ministre en la personne de Firmin Grébada, c'est un choix qui va dans la même direction du travail accompli. Tout ce que le Centrafricain veut aujourd'hui, c'est la pacification du pays, le respect des institutions, la relance économique du pays pour qu'on arrive à s'arrimer à d'autres nations parce qu'on est tellement en retard que c'est un plus pour le pays.
La société civile se veut prudente et attend de juger l'homme à l'œuvre. Paul Cresson-Beninga, porte-parole du groupe de travail de la société civile.
Nous n'allons pas faire une fixation sur l'identité de la personne nommée. Donc je pense que nous allons le juger au pied du mur. On reconnaît un bon maçon au pied du mur, donc nous n'allons pas très vite aller en besoin et dire que ça a été un mauvais choix. Il faut donner du temps et nous allons apprécier au fur et à mesure que les choses évoluent. Et je pense que le premier élément d'appréciation, ce sera le gouvernement qui va être mis en place.
Une nomination saluée également par la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique. Vladimir Monteiro, son porte-parole.
Non, notre partenaire principal en République centrafricaine, ce sont les autorités, évidemment. Lorsque une nouvelle autorité prend ses fonctions, nous saluons et nous avons hâte de commencer à travailler, notamment à un moment où le pays cherche à mettre en œuvre un accord de paix et avancer vers le relèvement.
Prenant officiellement ses fonctions ce mercredi, le nouveau Premier ministre a salué tout le travail accompli par son prédécesseur. Firmin Grébada dévoile ses priorités.
Je suis confiant de l'immensité de la responsabilité et de sa délicatesse. Je connais aussi l'espoir que suscite au sein de notre peuple cette nomination. Nous allons continuer à travailler dans le domaine du relèvement économique. L'accord de Bangui, qu'on appelle l'accord de Khartoum, donne un nouvel horizon. Dans ce cadre, nous en ferons un pilier supplémentaire de la politique du gouvernement. Nous ferons également de notre mieux pour que les engagements pris à Khartoum soient honorés, pour qu'enfin notre pays puisse connaître la paix, la sécurité.
Freeman Sipila, Bangui pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
Le cimetière des éléphants, c'est le nom du film documentaire de la réalisatrice burkinabé Eleanor Yameogo, déjà diffusé à Ouagadougou au FESPACO 2019. Le film parle des anciens missionnaires, les pères blancs en Afrique, leur rôle dans la colonisation de l'Afrique, les indépendances. Les pères blancs réfutent cette thèse d'avoir contribué à la colonisation de l'Afrique. Allons à la découverte de ce documentaire avec notre correspondant sur place, Lamine Traoré.
Je me consacrerai désormais et jusqu'à la mort à la mission de l'Église en Afrique.
Dans l'univers clos d'une maison de retraite en France, le quotidien de quelques anciens missionnaires, les pères blancs qui ont foulé le sol africain bien avant les indépendances pour l'évangélisation. C'est justement ce lieu de repos qui est ironiquement appelé par les riverains, le cimetière des éléphants, où vit une trentaine de pensionnaires, dont même le père François de Gaulle, neveu du général de Gaulle. Ces pères blancs racontent dans le documentaire de 52 minutes leur tumultueuse vie africaine, évoquent leur mission et leur place dans l'histoire de la colonisation. Ce sont les derniers éléphants et la réalisatrice essaie de recueillir leurs souvenirs.
Leurs souvenirs, c'est tous ces bons moments qu'ils ont partagés avec les populations, les Burkinabés. Surtout, et ce qu'ils ont pu apporter en Afrique.
Eleonore Yerbanga, réalisatrice.
Le film pose beaucoup, beaucoup de questions, notamment leur place dans l'histoire de la colonisation de l'Afrique, des indépendances. Donc ils se défendent, ils disent qu'ils n'ont pas été les protagonistes responsables de la colonisation de l'Afrique. Mais un historien qui est un peu l'antagoniste du film, qui apporte d'autres éclairages, qui nous montre que voilà, il y a eu... quand même des relations entre les missionnaires et la colonisation.
Père Maurice Oufaye est arrivé au Burkina Faso il y a 54 ans. Il y vit toujours et intervient dans le documentaire. Les relations entre les colons et les missionnaires n'étaient pas aussi faciles que cela.
Mais si on regarde au Burkina et notamment les régions que j'ai fait, c'était très conflictuel hein, entre la colonisation et la mission. Hein.
Père Maurice Oufaye, surnommé au Burkina le Tengbiga, l'enfant du pays.
Je suis arrivé au Burkina d'abord comme coopérant en 1965 à Nouna. Si on prend l'ensemble des missionnaires, on est parti en même temps que les colons en Afrique, on peut dire.
Des cinéphiles qui sont séduits après avoir vu le film. Alpha Barry, ministre burkinabé des Affaires étrangères.
L'œuvre des Pères Blancs est immense. Nous devons tous leur rendre hommage. Au-delà des débats qu'on peut avoir sur les liens avec la colonisation.
Adjaratou Kadiogo, une cinéphile.
J'ai été très impressionnée par ce documentaire parce que c'est un sujet sensible. Les missions en Afrique ont été souvent assimilées à la colonisation qui est un peu péjoratif.
Un film fait pour aller à la rencontre des Africains et des Français. Car pour la réalisatrice, l'évangélisation est une histoire commune qui lie les deux mondes. Tournée entre la France et le Burkina, le cimetière des éléphants est en compétition dans la catégorie film documentaire. Tout le budget du film n'a pas été bouclé. Il tourne autour de 100 millions de francs CFA, à peu près 200 000 dollars. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Nouvelle distinction pour le chanteur sénégalais Baba Mal. Son nom a été associé au prix de l'Oscar de la meilleure musique de film avec Black Panther. Il a déjà travaillé avec des compositeurs légendaires comme Hans Zimmer sur le film Black Hawk Down. Dans cet entretien avec Arzuma Compaoré, il revient sur sa rencontre avec le compositeur Ludwig Göransson et la signification d'une telle reconnaissance aux Oscars.
D'abord, j'aimerais bien féliciter et remercier Ludwig Göransson pour cet Oscar, mais en même temps de remercier de nous avoir associés et de l'avoir dit vraiment clairement durant la cérémonie de la remise des Oscars.
Parlez-nous un peu de cette rencontre entre vous et Ludwig Göransson.
Quand il est arrivé à Dakar, d'une façon très simple, il m'a trouvé, j'étais sur le point de partir en tournée à l'intérieur du pays. J'avais quelques dates à faire avec mon orchestre. Je lui ai dit, bon, je veux bien travailler avec toi et t'ouvrir nos portes, mais en même temps, si tu veux nous accompagner, ce serait un grand plaisir. Il n'a pas hésité, il a dit, oui, je vais avec vous. Quelqu'un qui fait plus de 12 heures de vol, peut-être même vers 16 heures de vol, qui vient de Los Angeles, qui arrive à Dakar et qui passe 3 heures de temps à Dakar et continue dans le nord pour faire 7 heures de route dans la pénombre parce qu'on est parti dans la nuit et qui se réveille comme ça au milieu de nulle part pour lui et qui nous suit pendant 10 jours et qui reste là, qui regarde nos concerts, qui voit nos costumes. C'est quelqu'un de formidable, qui a beaucoup de respect pour la culture en général, qui a beaucoup de respect pour les autres musiciens. Et c'est dans cette ambiance qu'on est revenu à Dakar, qu'on est rentré au studio. C'est mon studio, c'est chez moi. Et les musiciens sont venus nous retrouver un à un. Et je pense que ça a été une très belle aventure. Je vais vous faire une confidence pour vous dire que bon, j'étais là pour encadrer tous les musiciens, les instrumentistes, Massamba Diop, les joueurs de Sabar et tout le reste qui sont passés au studio. En ce moment, il m'a demandé est-ce que j'ai une composition, j'ai des accords avec de piano que je vais faire. Bien sûr, aller construire, ça va être beaucoup plus grand quand je vais rentrer à Los Angeles. Mais est-ce que tu voudrais mettre ta voix? Et je dis non. Tu prends tout simplement les percussions et consorts parce que c'est ça que tu es en train de rechercher. Il m'a dit, bon, il faut essayer un peu quand même. Et j'ai dit, bon, ok, on le fait.
Qu'est-ce que cette victoire représente pour Baba Mal?
Ce n'est pas le succès de Baba Mal, c'est le succès, par exemple, du Sénégal, c'est le succès de la musique africaine. Donc que tous ces jeunes talents, ces jeunes musiciens qu'ils sachent qu'ils ont toutes les possibilités du monde, c'est à eux maintenant d'aller conquérir le monde. Ibrahima Yelembo Adiamadan Sire. Routonanyal Bene Aou.
Voilà, c'était le chanteur sénégalais Baba Mal.
Et ce qui met fin donc à cette édition du Monde Aujourd'hui, à la mise en onde Sims Lumami, à la console Nelson Lopez, présentation Abdourahmane Dia et Raissa Gironda.
Restez connectés sur notre page Facebook et sur notre site internet voafrique.com. Excellente suite de programme.
Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Bienvenue à bord.